RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
5h58 avant minuit, vous écoutez Syllab, l'émission d'info locale de la radio. Nous sommes le mardi 6 mai 2025. Et vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, nous n'émettons plus vraiment en FM. Catastrophe, pas d'inquiétude, nous sommes toujours là. Nous sommes en train de chercher les causes de ce problème technique. Notre technicien Timothée est sur le front. En attendant, on vous invite à nous écouter en DAB+, c'est ça l'avenir. Ou sur internet, ça marche très bien aussi. Tout de suite, le flash de Romain.
Un nouveau chancelier pour l'Allemagne. C'était la surprise ce matin. Friedrich Merz, chef du parti conservateur allemand, n'obtenait pas la majorité des votes au Parlement. Grand favori grâce à une coalition avec le SPD, parti social-démocrate, il lui a manqué 6 voix pour être élu au premier tour, une première dans l'histoire allemande. L'AfD, le parti d'extrême droite, a immédiatement réagi en demandant de nouvelles élections. Il a fallu un deuxième tour cet après-midi pour enfin élire Friedrich Merz. Ce contretemps montre la fragilité de la majorité allemande. Le parti conservateur se retrouve coincé par la poussée historique de l'extrême droite lors des dernières élections en février. Deux nouvelles frappes israéliennes au Yémen. Plusieurs frappes ont eu lieu sur le sol yéménite aujourd'hui et hier. Elles ont touché l'aéroport de Sanaa, la capitale, et le port d'Odeida. Ces frappes sont menées en représailles à l'attaque yéménite de dimanche. Un missile Houthi avait visé l'aéroport de Tel Aviv. Les rebelles Houthis ont frappé une dizaine de fois Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Israël Katz, ministre de la Défense israélienne, a annoncé, je cite, « Nous réagirons 7 fois plus fort ». Les rebelles Houthis font état ce matin de 5 morts et 40 blessés. Le bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures. On pense qu'on aura un train pour ramener tout le monde dimanche. Ce sont les mots de Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, ce matin au micro de France Inter. Il se veut rassurant. Des préavis de grève ont été déposés cette semaine par la CGT Cheminots et Sudrail. Pour l'instant, la mobilisation se concentre sur les trains régionaux. Des annulations pourraient par contre concerner les grandes lignes durant le pont du 8 mai. Les syndicats accusent la direction de bloquer les négociations sur la rémunération et les plannings. Pour pallier à ces annulations, la SNCF promet d'échanger et rembourser gratuitement les billets de train annulés. Chaque voyageur et voyageuse est censé recevoir un message avant mercredi qui précisera l'annulation ou le maintien des voyages. C'est une parution qui fait couler beaucoup d'encre. Dès demain, vous pourrez trouver en librairie La Meute, éditée chez Flammarion, une enquête menée par deux journalistes sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dépeignant le leader de gauche comme un homme violent et son parti comme un système sectaire. Héloïse, tu nous expliques tout.
Oui Romain, l'ouvrage en question, c'est 2 ans d'enquête menée par 2 journalistes, Charlotte Belaïch de Libération et Olivier Perroux du Monde. Publié chez Flammarion, filiale du groupe Madrigal possédé par la famille Gallimard, La Meute recense les témoignages de plus de 200 personnes, anonymes ou pas, membres de la France Insoumise ou alliés du parti. Au cœur des révélations de ce livre très documenté, le fonctionnement dépeint comme pyramidal et courtisan de la France Insoumise, harcèlement, menaces, idéologie électoraliste, manque de démocratie interne. Au centre des accusations, Jean-Luc Mélenchon, décrit comme un chef suprême aux colères éruptives. Le triple candidat à la présidentielle, âgé de 76 ans, est décrit comme angoissé, paranoïaque et avide de complots à fomenter contre ses rivales et rivaux. Une violence souvent verbale, décrite par plusieurs exemples dans le livre, où l'on affirme que le leader de gauche aurait invité Manuel Bompard, coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, à, je cite, « s'acheter un cerveau ». Autre exemple, dans un message envoyé à Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, disant regretter les querelles intestines de la gauche et recevant comme simple réponse « je vais te la mettre, la dose que tu mérites ». Les journalistes à l'origine de l'enquête, invités ce matin sur France Inter, comparent le parti de gauche à une secte, avec, je cite, un chef adulé, des lieutenants zélés, des batailles d'influence et une dose de violence. Ils poursuivent en indiquant que le couple que Jean-Luc Mélenchon forme avec la députée de Paris LFI Sophia Chikirou, qui a refusé de répondre à l'enquête, a, je cite, « une influence sur l'organisation et la marche à suivre du parti ». Chez LFI, celles et ceux se montrant trop critiques seraient purgés. Des purges dont de nombreuses ont fait les choux gras de la presse, celles du couple Raquel Garrido-Alexis Corbière, de Clémentine Autain, de François Ruffin ou encore de Daniel Simonet. Pour Charlotte Belaïche et Olivier Perroux, les lieutenants de LFI aujourd'hui sont des répétiteurs de Jean-Luc Mélenchon, terme employé par plusieurs témoins. Autre point soulevé par l'enquête, une, je cite, « dichotomie totale entre ce que défend le parti sur les violences sexistes et sexuelles et ce que dit Jean-Luc Mélenchon ». À l'appui, l'affaire Quatennens, député LFI ayant reconnu lui-même avoir giflé sa femme et condamné à 4 mois de prison avec sursis. Enfin, l'ouvrage s'attarde aussi sur les accusations d'antisémitisme à l'encontre du parti de gauche et de son chef. Les journalistes affirment, je cite, qu'après l'écriture du livre, les insoumis ont eu une formation sur les questions d'antisémitisme dont ils ne veulent pas parler car à LFI, on n'admet pas d'erreur. Fin de citation.
Et alors, comment ont réagi les membres du parti, Héloïse ?
Peu de réactions pour le moment, Romain. Ragots et mensonges pour Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale et députée du Val-de-Marne. Elle dénonce un livre à charge factuellement faux et contestable. Manuel Bompard abonde dans son sens, déclarant avoir détecté à toutes les pages des informations inexactes.
À 2 ans de la présidentielle, le livre revient aussi sur la volonté des insoumis de cibler l'électorat des classes populaires. Je cite « pas celui des plouques de la ruralité, mais celui des banlieues jugées plus fidèles », selon les propos rapportés par Jean-Luc Mélenchon. Hier, une enquête Hexagone et IFOP l'a placé en tête des intentions de vote à gauche avec 10 à 13% des suffrages. Problème, au second tour, il serait battu par le candidat RN à 70%. Merci Héloïse. 77% des femmes salariées sont régulièrement confrontées à des propos ou des décisions sexistes, révèle aujourd'hui le 3e baromètre du sexisme dit ordinaire au travail. Le chiffre est en légère baisse par rapport au dernier baromètre de 2021. Il reste alarmant pour l'Association française des managers de la diversité, rédactrice du baromètre. Cette publication décrit différentes formes de sexisme ordinaire. 3 femmes sur 4 déclarent être confrontées à des blagues sexistes au travail. Un peu moins d'une femme sur 2 s'est déjà fait interpeller par un collègue avec un qualificatif sexiste, comme Miss ou Ma Grande. Et 1 homme sur 2 pense que ces réflexions sont bienveillantes, voire flatteuses. Le baromètre souligne de maigres avancées dans les entreprises, mais elles sont loin d'être suffisantes. 1 femme sur 2 considère que son entreprise doit aller plus loin pour faire reculer le sexisme ordinaire au travail. Dans ce contexte, la prise de parole en milieu professionnel est essentielle. C'était un des sujets du festival Visible. L'événement avait lieu du 24 au 26 avril au Triangle à Rennes, organisé par les Nouvelles Oratrices, un centre de formation en cercle de femmes pour se former à la prise de parole en public. Pendant ces 3 jours, la journée du vendredi était dédiée aux professionnels avec des ateliers en non-mixité choisis, par exemple déconstruire son syndrome de l'imposteur, améliorer sa capacité à improviser ou encore prendre la parole régulièrement sur LinkedIn. Je me suis rendu sur place à l'occasion de cette journée. Au Triangle, l'ambiance est studieuse. Les ateliers du matin vont se terminer, les participantes et les intervenantes se retrouvent pour manger, l'occasion d'échanger sur les activités du matin. Je retrouve Stéphanie, une habituée du festival.
Eh bien, c'est la 3e fois que je viens à ce festival.
Elle explique sa fidélité à l'événement.
J'ai besoin d'inspiration, et en fait je trouve de l'inspiration ici.
Trouver de l'inspiration, mais pas seulement.
Reprendre confiance et probablement me recentrer sur mes talents. Pas oublier ça en fait.
Élodie, une autre participante, a été à 2 ateliers ce matin.
J'ai commencé par déconstruire mon syndrome de l'imposteur et ensuite je suis allée en atelier pour prendre ma place en tant que leaduse.
Élodie est dirigeante dans le monde associatif. Cette journée, c'est l'occasion de travailler sur sa prise de parole sans jugement.
Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir trouver des outils pour pouvoir m'aider à prendre ma place et prendre la parole dans un cadre bienveillant avec des personnes qui vivaient potentiellement les mêmes problématiques que moi.
Léa Schwebel, intervenante pour les Nouvelles Oratrices, anime un atelier aujourd'hui, savoir pitcher ses idées, son projet ou soi-même.
L'enjeu, c'était d'avoir des clés pour faire un pitch efficace, donc trier ses idées, les structurer, les organiser et ensuite pouvoir les porter pour convaincre et avoir une prise de parole qui soit impactante.
visible. Avant, c'était juste une soirée. Cette année, le festival s'étend sur 3 jours. Léa revient sur cette extension.
Il y avait cette idée d'associer cette soirée inspirante avec une mise en action. C'est-à-dire, on est inspiré, on vient assister à des prises de parole et ensuite, on a envie de faire, on a envie de s'outiller. Donc, d'où la journée d'atelier.
Un événement inspirant et nécessaire. Au travail, les femmes sont interrompues presque 3 fois plus que les hommes pendant des réunions, selon les nouvelles oratrices. Et pour suivre le travail des nouvelles oratrices, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.lesnouvellesoratrices.com ou sur leur compte Instagram. C'est un reportage qui a été fait avec l'aide de Lola, merci beaucoup.
Et par toi-même.
Oui. Un projet de loi qui inquiète. Hier, les avocats et avocates rennaises ont manifesté devant la cité judiciaire. La proposition de loi dite Attal est examinée aujourd'hui par l'Assemblée en commission mixte paritaire. Cette proposition de loi vise à durcir la justice des mineurs. La comparution immédiate serait instaurée pour les mineurs dès 15 ans. Les sanctions pour les parents de délinquants seraient aussi durcies. La manifestation a réuni une 40aine d'avocats et avocates et des représentants des syndicats Force Ouvrière, d'Ille-et-Vilaine et Solidaire 35. Ils et elles déplorent des mesures répressives plutôt qu'éducatives. À Rennes, la mobilisation continue. Un nouveau rassemblement est prévu le 12 mai devant la cour d'appel de Rennes. Rennes au pluriel fête ses 10 ans. Du 9 au 22 mai, 14 associations locales se mobilisent pour promouvoir la richesse culturelle rennaise et la non-discrimination. Beaucoup de choses sont prévues pour fêter ces 10 ans. Des expositions, du théâtre, des projections, des rencontres ou encore des concerts. La soirée d'ouverture a lieu ce vendredi à l'hôtel de ville de Rennes. Une table ronde y sera organisée sur le thème « Transmettre l'histoire de l'esclavage, freins et leviers ».
C'est la fin de ce flash, merci Romain.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Cheveux tirés en arrière, chemise et blazer comme dans les grands restaurants. Romain, tu reçois ce soir Lucie Billon, bretonne et championne de France du dessert.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Alors, tu as remporté ce prix dans la catégorie junior au championnat de France de dessert. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un petit peu ton parcours ?
Alors, moi j'ai fait un bac hôtelier, donc après mon collège, j'étais à Quimper dans le Finistère. Donc après avoir eu mon bac, je suis arrivée à Rennes, au campus Ferrandi Paris, donc sur un bachelor en pâtisserie. Donc voilà, là je suis en deuxième année, il me reste un an pour finir mes études.
C'est une passion que tu as depuis longtemps ou ça t'est venu un peu plus tard ? C'est quoi un peu l'histoire de cette passion ?
Je dirais que j'ai ce choix de métier depuis le collège, mais avant c'était vraiment une passion, j'adorais faire des gâteaux avec ma famille, etc. Mais depuis le lycée, c'est vraiment mon choix de vie et je fais tous mes stages en pâtisserie, je travaille en pâtisserie.
Ok, alors pour revenir au concours, du coup, comment ça se déroulait ? Il y avait plusieurs étapes avant d'arriver à la finale ?
Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, je travaille sur ce concours-là depuis septembre. Donc en fait, il y avait une épreuve de sélection, de présélection par dossier. Donc on avait des dossiers à rendre pour le 10 décembre. On a eu les résultats 3 jours après, donc ça a été très rapide. Et après, on a été sélectionnés donc, pour les finales régionales. Donc moi, j'ai participé pour la finale régionale Ouest, donc qui se passait à Brest. C'était le 6 février dernier. Et donc j'ai remporté cette finale et je suis arrivée en finale nationale donc, qui se déroulait à Rennes cette année. Donc j'étais à domicile, pour moi c'était facile. Et c'était le 2 et 3 avril de cette année.
Et comment cette finale s'est déroulée du coup ? C'était quoi le principe ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ?
Bah, pour moi, du coup, elle s'est très bien déroulée. Donc la finale régionale, c'est 2 desserts en fait. Donc un dessert de sélection. Donc moi, j'ai présenté un dessert qui se nomme Entarblaz en référence à mes origines bretonnes. Et en plus, on a un dessert de panier, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est en fait un panier surprise qu'on ne connaît pas à l'avance, donc qui est décidé par le président du jury, qu'on découvre sur les 20 premières minutes de l'épreuve. On a un sujet, donc notre sujet c'était crousti fondant et la technique imposée c'était la gavotte, donc c'est spécialité bretonne. Et de là en fait on devait imaginer donc 10 assiettes et créer notre dessert comme ça du tac au tac.
Okay. Tu as parlé de ton dessert sélection, donc c'est le dessert que tu avais aussi présenté à la finale régionale si je me trompe
oui,
pas.
Oui voilà c'est ça.
Est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus en détail ? J'ai vu deux trois trucs, ça a l'air excellent.
Oui bien sûr. Donc, mon dessert c'est Entarblaz, donc ça prend...
Ça veut dire quoi ?
Enterblas, ça signifie le chemin du goût en français, donc c'est du breton. Donc c'est un dessert à base de poire, de sarrasin, donc pour rappeler les galettes et les crêpes que je mangeais étant petite. Il y a aussi une glace au miel de sarrasin, donc qui rappelle le lait miel de mon enfance. Donc en fait, quand on mange la glace, c'est comme si on buvait un lait miel. Il y avait aussi des notes d'agrumes, notamment avec une baie de thymut. Donc ça vient des épices Rollinger, c'est un producteur breton. Et voilà, donc socle en chocolat blanc, très léger, très fruité, très floral.
Et voilà, on a faim.
Tu dis que c'est des choses que je mangeais pendant mon enfance, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'inspire, à part peut-être du coup, les souvenirs? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent quand tu crées des desserts?
Pour celui-là, je me suis vraiment inspirée des souvenirs. C'est ce qui touche en général les personnes du jury, et ça permet à nous de transmettre en fait nos émotions. Mais après, c'est vrai que par exemple à l'école, en fait, on a souvent des sujets, on suit vachement les saisonnalités, parce qu'aujourd'hui c'est hyper important. Mais oui, en fonction des tendances, des saisons, etc.
Ok. Après avoir gagné, tu as parlé de tout le travail que tu as fourni. Je me demandais, ça prend combien de temps de créer un dessert comme celui-là?
Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc moi, j'ai commencé donc en septembre, comme je disais tout à l'heure. Et j'étais en stage en fait sur Paris, donc sur les 6 premiers mois du concours. Donc je faisais des allers-retours Paris-Rennes pour m'entraîner, pour avoir un suivi de l'école. Et en fait, c'est beaucoup de tests, parce que forcément, il y a des déceptions, parce que ce qu'on veut faire ne fonctionne pas forcément. Moi, mon dessert, les premières photos, elles sont vraiment pas belles, ça donne pas envie. Mais c'est beaucoup de travail, donc c'est dur mentalement, parce que il y a beaucoup de déceptions. Physiquement, parce qu'on dort pas beaucoup pendant ces quelques mois. Mais oui, c'est beaucoup de travail, mais au final, ça vaut le coup.
Et comment ça se passe dans ton processus de création? Comment on fait pour que ça plaise, en fait, un dessert?
On n'est jamais sûr que ça plaise, c'est en fonction des membres du jury. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait fait un dessert aux algues, donc en Bretagne, les algues, ça plaît. Donc il avait peut-être plus de chances de gagner que moi, mais en national, du coup, les jurys viennent des quatre coins de la France. Et du coup, les algues, les personnes ne connaissent pas forcément, du coup, ça change énormément.
Ok. Et pendant le concours, c'était comment l'ambiance? Est-ce que chacun est un peu dans son coin, ou vous avez quand même des moments où vous pouvez discuter, échanger, tout ça, ou c'est un peu plus compliqué?
Non, alors pour la finale régionale, c'était vraiment tout le monde était dans son coin. Il y avait vraiment cet esprit de compétition que j'ai pas trop aimé. Mais par contre, pour la finale nationale, c'était tout le monde était gentil. Il y avait de la concurrence, forcément, il y avait beaucoup de stress. Mais en fait, on était arrivé jusque-là, on avait fourni du travail et on avait un petit peu hâte que ça se finisse aussi, parce que c'est stressant. Mais non, c'était vraiment bien, je me suis fait beaucoup d'amis, donc c'est vraiment bien.
Ouais, c'était ma prochaine question. Ouais, j'imagine que c'est un bon endroit pour un peu faire du réseau et rencontrer des gens qui font la même chose que toi.
Oui, grâce à ça, j'ai rencontré des belles personnes. J'ai réussi à décrocher un bon stage donc pour ma troisième année à l'étranger. Après, les personnes du coup avec qui j'ai fait le concours, je suis restée en contact. C'est vraiment des belles personnes. Je les ai déjà revues depuis la finale, donc ça fait voyager aussi. C'est vraiment bien.
Et dans son dossier de presse, le concours, il parle d'un vrai réseau, notamment avec les anciens vainqueurs. Est-ce que t'as reçu des messages de précédents vainqueurs ou des gens?
Oui, ça fait plaisir, parce que du coup, moi, je suis en junior, j'ai 19 ans, donc je suis un peu petite dans le milieu. Mais j'ai reçu beaucoup de messages donc, de chefs que moi, je suis sur Instagram, etc. Donc, ils m'envoient des messages pour me féliciter, etc. J'avoue, ça fait un petit peu chaud au cœur.
Et du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent participer à ce concours, c'est quoi le processus un petit peu? Comment ça se passe?
Déjà, il faut être du coup en mention complémentaire dessert à l'assiette ou en bachelor. Mais je crois que ça va ouvrir, il y a une autre section, il me semble, qui est ouverte pour ce concours. Et en fait, fin août, je pense qu'il va avoir l'annonce du sujet en fait, pour le dessert de sélection. Donc moi, personnellement, je n'en avais pas, mais l'année prochaine, c'est possible que le président du jury, il en mette un. Donc après, c'est le processus de création. Il faut déposer les dossiers, donc on peut les déposer de septembre jusqu'à mi-décembre, ça dépend des années. Et après, les résultats, la finale régionale et la finale nationale.
Ok. Et donc du coup, depuis cette récompense, est-ce que t'as vu toi du changement dans ton activité ?
Non, pas forcément, parce que moi du coup je suis encore à l'école. Donc j'ai repris les cours, j'ai repris normalement les cours, j'ai repris normalement ma vie sociable. Mais non, j'ai pas vu énormément de changements. Mais pour la suite, oui.
Ouais. Et du coup, c'est peut-être un peu tôt pour demander, mais comment tu vois la suite pour ta carrière ?
Je sais pas trop. Là, je vais partir en stage à Amsterdam en juillet prochain. Et après, en fait, j'ai envie de voyager. J'ai envie de prendre les cultures de tous les pays que je peux faire et on verra bien les opportunités qui s'offrent à moi.
Eh bien, Lucie, merci beaucoup. Moi, et encore, bravo.
J'avais des petites questions complémentaires, si vous permettez, parce qu'il y a des choses que tu as dit qui m'ont un petit peu interpellée. Par exemple, tu as parlé des saisonnalités, tu as dit que c'était important. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'insère dans la formation en pâtisserie ces idées peut-être un peu plus écolo, un peu plus environnementales qu'il n'y avait pas forcément avant? Ou alors, est-ce qu'elles existent depuis longtemps dans les formations?
Non, elles n'existent pas depuis si longtemps que ça. Après, nous, du coup, à l'école, à Ferrandi, on est très bien formés sur ça. Donc, notre boutique, notre restaurant est formé sur les saisonnalités. Même, ça coûte moins cher à la production. Et forcément, ça a un impact plus écologique parce que quand on voit des restaurants qui mettent des tomates toute l'année, il faut se poser des questions. Ouais.
Et est-ce qu'il y a d'autres thématiques, d'autres choses importantes comme ça qui vous sont transmises sur l'environnement, le local?
Ne pas utiliser trop d'eau, le papier réutilisable, on essaie de faire au mieux. Quoi. Ouais.
Et c'est quelque chose qui te semble logique et applicable plus tard dans le futur, si jamais tu ouvres une pâtisserie ou...
Oui, c'est déjà appliqué dans les restaurants ou dans les boutiques.
D'accord.
Pas dans toutes, malheureusement, mais ça vient de plus en plus dans les restaurants.
D'accord. Et j'avais une deuxième petite question. Donc, tu as parlé de ces contacts que tu avais avec les seniors, avec les anciennes vainqueurs. Quel genre de conseils elles ont pu te donner? Et est-ce que c'est des contacts que tu penses garder pour plus tard?
Les conseils qu'ils m'ont donné, c'est de profiter parce que du coup, cette année, je vais être amenée sur plusieurs événements donc de pâtisserie. Donc de profiter un maximum parce que ça va être des rencontres, des souvenirs incroyables. Mais après, je n'ai pas forcément beaucoup parlé avec eux. Mais je sais que je peux leur envoyer un message et qu'ils y répondront avec grand plaisir, je pense.
C'est quoi les événements de cette année ?
Par exemple, là, en novembre, entre octobre et novembre prochain, je vais assister au Salon du chocolat à Paris. Donc, avec Clément, donc, qui a gagné en professionnel, on va faire une démonstration de pâtisserie sur le show du Salon du chocolat.
Ah, super.
Ouais.
Ok. Bah, écoute, merci. C'était tout ce que j'avais à rajouter.
Merci, Lucie.
Et encore bravo.
Oui.
6h avant minuit.
Et une chronique ciné, une avec Gwen.
Alors aujourd'hui, on parle du biopic Fanon, sorti en salle le 2 avril 2025. Il est réalisé par Jean-Claude Barny avec Alexandre Bouillet, Déborah François, Stanislas Mérard au casting. Cette création canadienne, belge et française retrace la vie de Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de Martinique qui vient tout juste d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Mais ses méthodes sont différentes de celles des autres médecins, et ce, dans le contexte de la décolonisation.
Aux colonies. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie ?
Ici comme ailleurs.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous.
Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous.
Pas le droit de se défiler. Et enfin, une chance que ça change ici.
Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution.
Chaque génération doit, dans une relative opacité,
découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous.
Frantz Fanon est célèbre pour son engagement politique et sa profession de médecin. Il est né aux Antilles françaises dans les années 30. Son engagement dans la guerre d'Algérie aux côtés du FLN et son travail psychiatrique sur l'aliénation coloniale l'ont transformé en emblème de la lutte anticoloniale. Sa pensée révolutionnaire a inspiré plusieurs combats, comme celui des Black Panthers ou des Palestiniens. Pour en apprendre plus sur lui, je vous recommande la série de podcasts des Grandes Traversées sur France Culture, publiée en août 2020. Mais évidemment, ce biopic vous permettra de découvrir sa vie remarquable. Ce n'est pas pour rien que le média Rolling Stone écrit « Faisant le choix d'une réalisation épurée, servie d'une photographie et d'un son très maîtrisé, Jean-Claude Barni signe davantage qu'un biopic, une porte d'entrée sur une œuvre culte, d'autant qu'on commémore cette année les 100 ans de la naissance de Frantz Fanon. Mais le film fait aussi parler de lui à cause de sa distribution restreinte dans les cinémas, notamment dans le réseau MK2. Lors de sa première semaine de sortie, seulement 70 écrans l'ont diffusé. MK2 se défend en invoquant des choix éditoriaux, souvent difficiles, parfois contestables, que doivent faire tous les exploitants de salles. Selon lui, le film serait trop commercial pour les salles d'art et essai et pas assez grand public pour cibler les salles multiplex. La distributrice de Fanon dénonce une forme de marginalisation des récits décoloniaux et afro-descendants dans le cinéma français. Et cette polémique n'est qu'une expression d'un problème plus global, celui de la diffusion des œuvres traitant de la colonisation et de personnalités historiques noires. Nicolas Tran Trong, le chef monteur son de Fanon, a publié sur X « Je suis juste stupéfait de ce boycott ». Son message a été retweeté des dizaines de milliers de fois et vu par des millions de personnes. Preuve que l'opinion publique se saisit de la controverse. Malheureusement, encore aujourd'hui, la politique et la culture invisibilisent le rôle colonisateur de la France et préfèrent mettre la poussière sous le tapis.
Merci Gwen et rendez-vous à l'Arvor ce jeudi 8 mai à 17h30 pour voir le film. On check notre répondeur, je crois qu'il y a un message.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Incroyable, je me baladais il y a quelques jours à Rennes. Normalement, je suis pas d'ici et j'ai vu un sticker sur un poteau. Je me suis vite fait renseigner parce que ça a l'air super sympa. Et je trouve le principe incroyable. Genre, tout ce qui s'approche, genre la positive attitude, tout ça, c'est trop bon truc. Et voilà, ça a l'air d'être vraiment sympa. Genre, je sais pas si vous recevez des trucs touchants, des trucs mignons et tout. Donc voilà, je voulais juste dire que ça avait l'air sympa, votre petit truc. Bisous.
Bisous, bah merci. Mais oui, on a même reçu des déclarations d'amour. Hein, Cyriane ? Qui est dans le... dans la régie là-bas. Oui, on reçoit des messages très positifs et très sympas de nos auditeurs et auditrices. Et d'ailleurs, bah, si vous faites partie de nos auditeurs et auditrices, a priori oui, si vous m'entendez, eh bien, laissez-nous ce message positif au 02 30 96 25 35. Merci à Mazir pour la technique et à demain dans 6h avant de minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.